Bonjour, c'est Radio Radium et vous êtes sur l'émission Remue-Ménage, c'est Hervé.
Bonjour à tous, c'est Julie.
Bonjour, c'est Christian.
Bonjour, c'est Leïla la technique.
Jimmy la technique.
Et bonjour à tous. Donc avant tout, on s'excuse si vous entendez des bruits bizarres, des grésillements, des trucs comme ça. Il y a des travaux en fait à côté. Et voilà, si ça s'entend à l'antenne, on s'excuse par avance. Voilà, j'espère que ça ne gênera pas trop l'émission.
Ça tape et ça scie et ça ponce.
Voilà, et ça fraise et ça perce et ça fait du bruit tout ça. Du coup, avant de commencer, une petite pensée pour nos amis qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui sont en escapade sur Toulouse et qui notamment sont en visite aux ateliers à Toulouse pour une expo qui s'appelle la déconiatrerie autour de l'art et de la psychiatrie. Expo à aller voir sans hésiter. Christian, le thème du jour ? C'est vous qui l'avez proposé, c'est un bon thème. Hein.
Les EHPAD.
Les EHPAD. Alors, pourquoi les EHPAD ?
On en parle depuis un moment, là.
Oui.
En bien et en mal. C'est ce qu'on nous dit. Comme on parle, il y a des procès. Voilà.
Il y a des familles qui sont pas contentes des services, des prestations qui sont données en EHPAD, quoi.
Oui.
Et vous en pensez quoi, vous, Christian, du coup ?
Moi, je suis mitigé parce que y a des personnes qui se sont jamais occupées de leurs parents, qui sont morts, et maintenant elles pleurent que c'est les EHPAD qui les a laissés tomber. J'en connais, je castre. Ils ont leur mère dans un EHPAD et il n'y a personne qui va la voir. Alors, c'est ce qui fait réfléchir un peu.
Après, ça, c'est l'histoire propre à chaque individu. Si les gens ne vont pas voir les parents ou la famille qui est en EHPAD, c'est que peut-être déjà il y avait dans les histoires de famille des conflits, des choses comme ça.
Oui, je suis d'accord, mais il ne faut pas pleurer pour essayer de retirer de l'argent de ça.
Non, ça, c'est sûr.
C'est ce que je veux dire.
Et puis avec le Covid, ça a beaucoup impacté sur les visites envers les personnes âgées.
Ah ben, il y a des familles qui n'ont pas pu voir leurs parents pendant près de 6 mois à cause du Covid. Oui. Ça, c'est,
oui, mais ça c'est tout le monde.
Ça a été difficile à vivre pour beaucoup, et même certains qui n'ont pas pu être au chevet de leurs parents pour leur dire au revoir au moment...
Oui.
Et c'est mais après, comme vous le disiez, comme vous le dites à juste titre, Christian, dans les familles autres, ça a été aussi le cas parce que dans les familles qui sont loin, les gens pouvaient pas faire la route. Enfin, il y a eu des, par rapport à tout ce qu'on a traversé là, des familles qui ont vécu des choses difficiles.
Voilà.
Oui, parce qu'il y a eu des morts en EHPAD et sans voir ses propres parents.
Oui, non, là, c'est la maladie, c'est les conditions sanitaires qui ont empêché de faire tout ce qu'on voulait.
Mais après, par rapport à ces EHPAD, concrètement, je ne sais pas, est-ce que vous, Christian, vous verriez bien vivre et finir votre vie dans des établissements comme ça, c'est quoi votre vision des choses par rapport à ça ?
Non, je ne pense pas y finir ma vie là-dedans, mais parce qu'en plus c'est trop cher. Après, quand vous avez 90 ans, vous ne pensez pas faire des trucs avec des personnes qui en ont 80, 100 ans.
Mais en plus, on s'en fout un peu des... Enfin, pas ses propres parents, mais comme le dit ma mère, elle a 85 ans et elle va sûrement finir en EHPAD parce que de toute façon elle n'aura pas le choix. Et elle dit, nous les vieux, on s'en fout de nous. on ne sert plus à rien. On coûte cher parce qu'il faut verser la retraite.
Oui.
Donc, ils ont l'impression d'être sur la touche.
Non, ceux qui sont en bonne santé, ils jouent.
Mais elle est en bonne santé, elle reste chez elle, elle fait à manger, elle fait.
Non, elle fait à manger, elle ne pourra pas, mais elle amènera. On amènera la salle à manger où elle ira. Non, il y a eu positif aussi. Hein.
Après, il paraît qu'il y a des EHPAD qui sont très bien.
C'est ça.
Ça dépend. On a, parce qu'il y a eu un scandale sur une EHPAD qui est très chère et où il y a eu de la maltraitance et tout ça. Ça a fait encore tout un buzz à la télévision, etc.
Alors, ce n'est pas une EHPAD en particulier, c'est toute une chaîne d'EHPAD.
Voilà, une chaîne,
voilà, on ne va
une
pas citer le nom parce que je pense qu'on a déjà suffisamment parlé d'eux, mais toute une chaîne d'EHPAD où, où quelqu'un a, bah, a vu un peu infiltrer le... voilà, le...
C'est 4000 euros par mois, je crois.
Ouais, là, tous les établissements de ce type, où il s'est rendu compte qu'il y avait au niveau de la gestion déjà financière des abus et que l'argent n'était pas redistribué comme il fallait. Et en plus de la mauvaise gestion financière, il y avait en plus de la maltraitance auprès des personnes. Donc c'est doublement dramatique. Après, effectivement, il ne faut pas généraliser.
Un manque de personnel et tout ça.
Après, c'est ça, quand on n'a pas le nez dedans, on se dit, mais ça coûte tellement cher, mais où par l'argent ? Parce que, ben voilà, comment on peut justifier un 4000 euros et ne pas avoir de budget financier pour un peu récréer les personnes qui sont dedans en leur proposant des sorties, des choses, des... C'est compliqué de...
Moi, je suis en fait une patte, là. Et bien, il y a des personnes qui sortent maintenant. Pourquoi je ne sortais pas avant? Il y a les enfants ou les personnes ou les cousins, je sais pas, qui viennent les chercher, ils passent l'après-midi, le soir ils rentrent.
Il y en a, c'est des mouroirs quand même, ouais, pour avoir travaillé dans une maison de retraite. Oui, à l'époque, non, on disait maison de retraite. J'avais travaillé, j'avais fait un stage avec, à l'entretien. Ils étaient tous sur des fauteuils roulants dans une salle, un rond, et ils faisaient rien.
Mais malgré tout...
Ils n'étaient pas occupés.
Malgré tout, ces gens-là, à domicile, ils feraient quoi ?
Non, d'accord, c'est pas le problème. Mais ils pourraient au moins faire des activités, faire quelque chose.
Oui,
là, ils sont en randonnion, il n'y a même pas de télé, il n'y a rien. C'est très basse. Pas où il y a Manu. Hein,
Ah, après, c'est ça, au bout d'un moment, quand on est proche de la femme, mais n'importe quel être humain n'est plus en capacité mais de jouer.
Quand c'est pas autonome.
Après, c'est ça, l'EHPAD, est-ce que c'est pas aussi un moyen mais de pas finir ses jours seul, de malgré tout être entouré
Ouais, c'est triste quand même.
C'est triste, mais la fin de vie et la dégradation de l'être humain,
du corps,
ça reste triste, mais ça reste une réalité. Est-ce que s'il n'y avait pas les EHPAD, parce qu'en ce moment, voilà, on dénigre vraiment ces établissements, il y aurait quoi ?
Ah oui, heureusement qu'il y en a, heureusement, bien sûr.
Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent seules, et ils sont démunis aussi.
Mais oui.
Et tu retournes vers quoi ? Vers les EHPAD.
Et puis je crois qu'il y a un manque de personnel, non, dans ce genre d'endroit.
Tous les milieux de soins et de santé, partout, il y a manques de personnel. Et puis particulièrement dans les EHPAD, où physiquement ça sollicite le personnel. Voilà, il y a des gens qui se font mal au dos, et c'est des arrêts maladie, ils ne sont pas remplacés. Oui, mais partout, il y a du manque de personnel, partout.
Oui, oui.
Mais c'est ça, si dans les campagnes, voilà, papy et mamie qui ont toujours vécu en espace clos, qui ne sont pas habitués à appeler à l'aide et tout ça, si à un moment donné on ne propose pas l'EHPAD, ben, comment ils vont vieillir et quelles aides ils auront et comment ça va se passer pour eux On en vient parfois à entendre des situations, mamie qui est dépassée parce que papy va pas bien, mais qu'elle sait pas comment faire, elle sait pas vers qui se tourner, et mamie s'épuise aussi. Enfin voilà, c'est Alors c'est clair qu'il faut revoir le fonctionnement des EHPAD. Hein, ça, c'est,
Mais moi j'ai mon propre père qui est décédé il y a longtemps, c'est d'ailleurs 7 ans. Il a vécu chez lui sur un lit
médicalisé.
Près, là, médicalisé. Mais il a eu de la chance d'avoir une femme qui était beaucoup plus jeune que lui et qui s'en est occupée jusqu'à la fin. Il y avait toilette le matin, toilette le soir. Il commençait à avoir la gangrène quand il a fini, il était en fin de vie. Et on n'aurait pas eu sa femme pour s'en occuper. Ouais. Il aurait fallu qu'on s'en occupe, nous. Mmh. Et il aurait été en EHPAD, et voilà. Et moi, je ne suis pas solvable. Je ne sais pas s'il aurait pu payer, parce que est-ce qu'il y a des aides quand on ne peut pas payer ?
Oui, bien sûr, il y a des aides.
Oui, il y a des aides.
Il y a des aides.
C'est la panne, hein, c'est ça ?
Entre autres.
Entre autres.
Mais voilà, encore une fois, les gens qui ont des petites retraites ou des petits revenus n'ont pas le choix de l'établissement dans lequel ils veulent aller, parce que, voilà, faut pas se leurrer, les moins chers sont pas forcément ceux qui respectent ou plus le rythme des personnes, hein, parce que, voilà, moi, quelque chose qui m'a toujours révolté, on parle de bientraitance et tout ça, mais parce qu'on peut pas faire autrement, les gens arrive à réveiller les personnes à 6 heures quand ils commencent leur journée, parce que ça leur va bien de faire la toilette là. Donc à 6 heures, c'est grande lumière et le gant d'eau, parfois pas toujours chaude parce que l'eau n'a pas le temps de chauffer. Un coup le visage, un coup la toilette intime et une fois par semaine les pieds. Et tout le monde le sait, mais les soignants sont en colère sur ce fonctionnement et ne le cautionnent pas, mais ils n'ont pas le choix de faire différemment.
Il paraît qu'il y a des vieux qui ne veulent pas se faire laver.
Mais après, c'est une histoire de choix, mais c'est aussi une histoire de respect des autres. Mais j'entends tout à fait que une personne qui c'était ses habitudes de vie à l'époque, il prenait pas la douche tous les jours, hein, donc ouais. Voilà.
Ouais, mère a deux douches par semaine. Les aides-soignantes qui viennent la doucher, 2 douches par semaine.
Laïla, je crois que vous disiez que vous aviez travaillé dans un établissement un peu de personnes pour personnes âgées.
Oui, j'ai été aide-soignante il y a une dizaine d'années. Mmh. Et je faisais... donc moi, j'étais en CDI dans une clinique en neurologie et j'étais vacataire à l'hôpital général. Et du coup, j'étais très sollicitée dans les EHPAD, dans l'EHPAD de la ville où j'habitais à l'époque, dans le Val d'Oise. Et c'était un EHPAD qu'on appelait le mouroir, en fait. Mmh. C'était vraiment... nous, on avait comme consigne de faire le visage, la toilette intime, et puis les pieds. Et puis, il y avait une douche par semaine. Une fois par semaine, où ils étaient lavés de la tête aux pieds. Et en fait, il y avait beaucoup de manque de personnel, avec beaucoup d'arrêts maladie et de pas remplacement. C'est pour ça que moi, j'étais appelée en tant que vacataire pour remplacer ceux qui étaient absents. Et en fait, on était genre 5 pour 5 ailes. Il y avait une aide-soignante par aile, en fait. Et il y avait à peu près 110 personnes par étage à aider. Enfin, il y en avait certains qui étaient autonomes, mais ils étaient très peu à être autonomes. Après, il y avait ceux qui étaient en situation de qui étaient grabataires, qui pouvaient même pas se lever du tout. Donc là, c'était lève malade, où ils étaient au fauteuil, dans des fauteuils coquilles ou dans des fauteuils roulants toute la journée, et puis au lit, il y en avait qui étaient au lit tout le temps.
Vous étiez combien pour faire tout ça?
On était, moi du coup je remplaçais, donc avec moi ça faisait 5. Oui, et effectivement le matin on commençait du coup à 6h. Et on faisait les toilettes le plus tôt possible. En fait, on faisait les toilettes avant le petit déjeuner. Et après il y avait la mise au petit déjeuner. Et après il y avait des toilettes encore après le petit déjeuner. Et l'après-midi c'était principalement l'échange et les activités.
Il y avait il y avait quoi comme activité de proposer?
Il y avait une ergothérapeute, comment on appelle ça, ergothérapeute,
oui.
qui proposait des activités. Alors, il y avait des activités de collage, de coloriage, il y avait des sorties, il y avait des activités musique aussi qui étaient organisées, il y avait des personnes qui venaient chanter. Il y avait quand même quelques activités de proposer. Ils avaient la télé, mais la télé, elle était toujours très très fort, un volume très fort dans la salle principale. Et la plupart du temps, les personnes, après la toilette, ils allaient dans la salle principale toute la journée, pendant les repas se passaient aussi dans la salle principale. Et puis, on les mettait là, on les installait là, et on les remettait le soir dans leur chambre, quoi. La plupart du temps, c'était ça, quoi. Après, il y avait ceux qui étaient autonomes, qui sortaient de l'EHPAD, qui partaient boire un café, qui allaient acheter des cigarettes, qui... Et puis ceux qui étaient vraiment en situation de... qui étaient grabataires, bah, ils étaient complètement dépendants. Donc du coup, on les mettait à un endroit et puis on les remettait à un autre endroit. C'était à peu près ça. Mmh. On les déplaçait...
La base, mais bon, là encore, il faudrait des moyens et ça coûterait encore plus cher. Mais la base serait qu'ils respectent le rythme de vie de chacun, mais que les gens puissent se lever à l'heure qui leur convient et puissent se coucher à l'heure qui leur convient.
Oui, et du coup, ils avaient le petit déjeuner, c'était à 8h, 8h30 le petit déjeuner. Donc du coup, les toilettes, c'était de 6h à 8h30. Après, jusqu'à 9h, ils avaient le petit déjeuner. Et après, il y avait des toilettes encore jusqu'à... Des fois, on terminait qu'à midi, jusqu'au repas, quoi. Ça dépendait les nombres de personnes à s'occuper. Et puis après, il fallait les remettre au repas à midi. Et après, il y avait la collation à 3h30. Et après, il y avait le repas le soir. C'était à 6h30, la soupe. Et le repas à 7h. Donc, c'était un rythme assez... Et puis c'est imposé, quoi. On est obligé de leur... Nous, on a les repas qui arrivent à telle heure, on prépare, on les installe, on leur donne, on découpe, on leur donne, pour certains, on leur donne à manger. Enfin, c'était obligé de... Enfin, on est obligé de respecter ce rythme-là, quoi.
Et oui, parce que sinon, ça roule pas. Mais on parle du matin, mais le soir, c'est pareil. Souvent, des personnes qui sont... un peu plus dépendantes. On leur fait la toilette encore plus tôt pour les préparer. Ils sont souvent couchés même
Couchés à 5h30.
Voilà, c'est
à 5h30, ils sont couchés. Les premiers couchés, ils sont à 5h30, jusqu'à ce qu'on termine à 20h30.
C'est ça. Mais malgré tout, si ces personnes n'étaient pas là, voilà, à domicile, comment ça se passerait? Est-ce que ce serait mieux, moins bien
À domicile, les infirmières qui viennent à domicile, ils viennent à peu près aux mêmes horaires que dans les EHPAD, en fait. Ils font à peu près les mêmes... pour ceux qui ont des aides à domicile, c'est à peu près les mêmes horaires. Donc, finalement, ils sont imposés aussi par rapport aux horaires des infirmières, quoi.
C'est ça.
En fait, on leur impose forcément un rythme à un moment donné, qu'ils soient en EHPAD ou à la maison, ils sont forcément un rythme à imposer, quoi.
C'est ça. Et malgré tout, en EHPAD, mais il y a toujours quelqu'un autour pour...
Oui, et puis après, s'il y a des urgences, c'est pris en charge très rapidement. Il y a toujours des médecins qui sont présents au cas où, bah, quand il y a des décès, quand il y a des maladies graves, quand les personnes... Ils sont en fin de vie, qu'ils ont des problèmes ou des arrêts cardiaques ou des trucs comme ça. Enfin, il y a une prise en charge médicale qui fait qu'il y a toujours une présence et une prise en charge quand même de soins. Après, c'est sûr que le rythme, il est imposé et qu'on ne peut pas faire autrement.
Mais c'est ça. Mais après, comment, si on sort du système EHPAD et qu'on se pose deux minutes, qu'est-ce qui se passerait à domicile s'il n'y avait pas les EHPAD? Quel est le mieux? Quel est le moins bien?
C'est sûr que les EHPAD, moi j'avais mon arrière-grand-mère, elle est morte à 94 ans. À 92 ans, on a été obligé de la placer en EHPAD parce qu'en fait, à cette époque-là, moi j'étais en train de faire les études d'aide-soignante et j'ai essayé de m'en occuper chez elle à domicile. Elle refusait. Elle refusait d'avoir des aides à domicile.
C'est ça.
Et elle faisait que chuter et elle fermait la porte à clé, elle laissait la clé derrière la porte. Alors qu'on lui avait donné la consigne de ne pas laisser la clé derrière la porte pour qu'on puisse rentrer, parce que ma grand-mère avait une clé, et moi j'avais une clé aussi. Et en fait, on se retrouvait qu'on ne pouvait pas rentrer, et elle chutait. Et à force de chuter, elle faisait des malaises, enfin, on a été obligé à un moment donné de la placer. Mmh. On l'a placée dans l'EHPAD où j'ai travaillé après. Donc du coup, moi, quand je travaillais, ben, je la voyais, donc je restais un petit peu avec elle, tout ça. Mais par exemple, c'était une personne qui refusait les soins. Elle voulait pas qu'on lui fasse la toilette. Donc elle disait qu'on la lavait jamais, alors que sur les classeurs, c'était bien écrit qu'elle avait une douche une fois par semaine. Mmh. Et quand j'étais là, je voyais qu'effectivement, il y avait quand même la toilette qui était faite. Mais elle disait qu'on s'occupait pas d'elle. Elle voulait pas aller dans la salle commune avec les autres. C'était une personne qui marchait. Elle voulait pas aller dans la salle commune avec les autres personnes parce qu'elle voulait pas être en compagnie des autres. Elle voulait être toute seule. Elle voulait pas rester dans sa chambre toute seule non plus. Enfin, c'était assez compliqué quand même.
Mmh. Il y a des personnes qui, je sais pas, on va pas donner de fourchette d'âge, mais qui encore sont valides et tout ça, mais parce qu'elles souffrent de solitude ou parce qu'elles ont envie d'autre chose, font le choix encore, de façon, quand elles sont autonomes et tout ça, d'aller vivre à un EHPAD et elles en sont ravies parce que...
Elles ont des copines.
Voilà, c'est ça, il y a des relations sociales, elles sont entourées, elles sont pas seules et... Mmh.
Il y en a, le plus jeune pensionnaire, il avait 57 ans. À 57 ans, il était placé en EHPAD. Mmh. Parce qu'il était tout seul, il avait une pathologie psy. Mmh. Et du coup, il ne pouvait pas rester chez lui à la maison, donc il était en EHPAD.
C'est ça, parce que... Mais voilà, s'il y a
il s'y plaisait bien. Il avait son rythme de vie, ses repas, sa chambre. Il était accompagné.
C'est ça, il était entouré, aidé... Et si on parle un peu de démence ou quoi, il y a des personnes, s'il y a des démences qui s'installent, ou à ce moment-là, c'est très très lourd pour la famille de les maintenir à domicile parce que c'est une présence permanente. Mais les enfants sont parfois encore en activité ou même ont les petits-enfants à gérer. Enfin, c'est compliqué à un moment donné d'être au four et au moulin. Et puis, donc voilà, quelle est la meilleure solution? Quelle est.
Vous la savez. Vous la savez.
Moi, je crois que ça dépend des individus, tout simplement.
C'est ça. On a quand même la chance qui... Voilà. Alors, on remonte nombreuses années en arrière. C'était l'intergénérationnel. Il y avait dans la même famille les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants.
Chez les musulmans, c'est ce qu'ils font.
On n'est plus dans ce modèle-là. Effectivement, les musulmans, il n'y a pas de placement en EHPAD. Mais,
ils gardent leurs parents.
C'est ça. Mais à la charge, parce que c'est sûr que c'est une charge, et d'autant plus quand il y a de la démence derrière, c'est une présence permanente, c'est une responsabilité, c'est aussi une crainte, parce que la personne peut partir, se perdre, chuter.
Nous, on habite là, il y a toujours un monsieur très âgé, apparemment, qui marche avec une personne qui lui tient le coude. Et il arrive bien à marcher encore. Hein. Je suis sûr qu'il y a une centaine d'années. Mmh. Pas loin.
Mais il doit avoir pas mal d'aide au domicile. Ça implique des infirmiers, ça implique des aides à domicile.
On en voit beaucoup, des infirmières, tout ça, venir. Hein. Tous les matins, il y a des infirmières partout qui viennent dans l'immeuble.
Hein. Mmh. Il a des pannes, comme Jean-Pierre, là. Castro.
Mais oui.
Tous les jours, il mord à son coca.
Mais oui, mais c'est ça.
Lui, il est heureux.
La maison.
Ce matin,
il est heureux, moi, quand il est
sorti. Il a fallu qu'il parlemente pour sortir.
Quand on l'a vu tous les deux, quand on a pris le café au Progrès, il me dit je peux pas mettre la musique, ils veulent pas. Il a toujours son petit transistor, comme il faisait aux Iris. Et il vient boire son coca.
Oui,
il est fort, comme il y a le Covid, ils ne veulent pas qu'il sorte. Mmh. Ah, il s'échappe un peu. Ouais. C'est un malin. Ah.
Ça peut être un jeu, déjouer les soignants.
Ouais. Bon, il a l'air en forme, franchement, il a l'air en forme. Hein.
Et après, il y a Jean-Paul. Mmh. Lui, il est sale comme un peigne à chaque fois que je le vois.
Il est sale comme un peigne?
Ouais.
Ah ouais?
Un déambulateur, il y a.
Et oui, mais après, voilà, s'il est comme ça, c'est que ça lui va bien comme ça. Et que même s'il a un pull taché, c'est un détail. Bon. Et Jimmy, on ne vous a pas trop entendu. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça
Des EHPAD et tout,
moi. Ouais.
Pas
grand-chose.
Pas grand-chose, ouais.
Est-ce que vous avez eu déjà dans votre
entourage
des personnes qui étaient, non?
Non, pas pour l'instant. Non.
Bon, et alors, comment vous vous voyez vieillir, vous, Jimmy?
Ah, ça, c'est... c'est la bonne question.
En plus, tu viens d'avoir 32 ans.
Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est... je suis jeune, moi, encore. Je suis encore jeune.
Tu vas pas l'en pas, rassure-moi.
Pas encore. Hein. Bon, ça va.
Non, mais c'est non, ça. Il mais... y a des personnes qui disent « Moi, jamais j'irai en EHPAD ». D'autres qui disent « Mais si, moi, enfin, je me vois pas finir ma vie tout seul. » Enfin, je sais pas.
C'est, à 32 ans, c'est dur à expliquer, à dire. Quand même.
Ouais, vous n'êtes pas projeté encore.
Non, je suis pas projeté.
Bon, ça veut dire que vous êtes jeune encore, alors.
Oui.
Les filles, vous savez pas ce qu'elles leur ont dit, les filles, en dessous de chez nous?
Non.
Qui faisait 50 ans.
Et ouais. Vous avez refait la journée, là.
Oui, 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 c'était avant-hier. Ouais.
Ah, ouais. Tu fais ça, t'as 50 ans.
Ouais, c'est vrai.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lance le morceau? Quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Ouais,
j'y passe, ah oui, Leïla. On lance le morceau et vous faites l'annonce après ou vous faites l'annonce maintenant?
Je fais l'annonce maintenant, comme ça on lance le morceau en dernier.
Alors ça marche, alors on vous écoute.
Alors, l'hôpital de jour, l'Hélice, fait un atelier photo animé par Sophie, qui fait une exposition photo du 14 février au 12 mars au Centre culturel de Rond-Point, en place de l'Europe, à La Bruyère. Et il y a une inauguration le 17 février à 18h.
Et alors,
c'est l'exposition photo qui, en fait, c'est la déconstruction de l'hôpital Gabarou, l'hôpital général de Castres au centre-ville, jusqu'à sa reconstruction au carré Gambetta.
D'accord, donc en fait, sont exposées des photos prises à différents moments, voilà, et à différents endroits de cette déconstruction et de cette reconstruction.
C'est ça.
D'accord. Il y a un ordre chronologique, il y a... Ou c'est chacun qui navigue, peut-être, vous, sachant que ce n'est pas exposé encore, vous ne savez pas trop comment ça
non,
va
je
être.
Sais pas. Moi, j'ai fait partie de l'atelier photo, mais j'ai pris des photos à une époque.
Ouais.
Après, là, je n'ai pas participé à la mise en place de l'atelier, l'exposition, donc je ne sais pas.
Donc, à l'espace culturel de La Bruyère, redites-nous les dates.
Alors, du 14 février au 12 mars.
Voilà. Allez-y, c'est visite gratuite et entrée libre. On lance le morceau, donc petit hommage aux anciens.
Une très belle chanson.
Voilà. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci pour votre écoute.
Au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne, ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Qu'il est loin d'ici. En pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.